vous invite à vous asseoir. 1 Rois, chapitre 17, les versets 8 à 24. Nous continuons notre parcours avec le prophète Élie. En fait, nous lirons jusqu'au verset 16. Élie donc a été gardé par Dieu au torrent de Kérit. Le torrent est à sec. Et donc, verset 8, « Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Élie se leva, il partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme, veuve, en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau, dans une cruche, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois. » Puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur le pays. Elle partit, elle se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. La semaine dernière, nous avons vu la façon dont Élie, le prophète, a été caché par le Seigneur après avoir défié le roi Akab pour son infidélité. Pendant des semaines, pendant des mois, Élie a vécu seul au bord d'un torrent, coupé de tout, coupé de tous. Le Seigneur a pourvu à ses besoins. Des corbeaux amenaient chaque jour la nourriture, de la nourriture que ces corbeaux destinaient probablement à leur bande, car on le sait, les corbeaux vivent en groupe. Ces oiseaux qui se nourrissaient autant de viande que de graines apportaient finalement près d'Élie ce qui pourvoyait chaque jour aux besoins du prophète. Ce n'était pas un hasard, c'était l'action du Seigneur. Et nous avions admiré sa maîtrise sur toutes choses, et sa capacité à savoir utiliser toute sa création pour le bien de ceux qu'il veut secourir. L'autre action du Seigneur, c'était pendant tout ce temps, le fait que Dieu ait gardé à Élie les ressources de l'eau. Le torrent qui était donné lui permettait, pendant le temps où la sécheresse s'installait, d'avoir ce dont il avait besoin. Mais voilà que la sécheresse se durcit, véritablement, et le torrent qui avait abreuvé Élie se trouve désormais à sec. Élie se trouve en situation difficile, à l'endroit même où pourtant le Seigneur avait conduit ses pas et pourvu à ses besoins. Quelle expérience difficile! L'exigence est dure pour Élie. Il s'agit de tenir bon dans la sécheresse, comme il l'a fait alors que le ruisseau était plein d'eau. Il faut s'attendre au Seigneur véritablement, même si les événements prennent un cours bien inattendu. Alors, nous dit le texte, à l'endroit où nous le prenons, il y eut une parole du Seigneur pour Élie. Il y eut une parole du Seigneur. Quel que soit le contenu de cette parole, c'est déjà une ouverture. Cela dit que le Seigneur se souvient d'Élie. Cela veut dire que le Seigneur ne l'abandonne pas à son ruisseau sans eau. Là encore, le Seigneur prend ses responsabilités. C'est lui qui a conduit Élie à être à cet endroit, mais c'est lui aussi qui prend en charge la sortie et les perspectives pour la suite, alors que le ruisseau est tari. Ayons confiance, Dieu n'abandonne pas quand il conduit. Le peuple d'Israël l'a vécu lors de sa sortie d'Égypte. Le Seigneur a su ouvrir la mer qui leur barrait la route pourtant à un instant. Il est allé au bout de ce qu'il avait commencé de faire en les sortant d'Égypte, même s'il y a eu là un obstacle avec la mer Rouge. Nous savons vraiment que si le Seigneur permet l'épreuve et même la sécheresse dans la vie comme ici, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Comme pour Élie, comme pour Israël au désert, vient le moment où le Seigneur nous dit, quand il nous conduit, « Vous avez assez tourné autour de cette montagne », c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël dans le désert. « Maintenant, j'ai préparé autre chose pour vous. » Rappelons-nous que notre Seigneur est le Dieu des ouvertures, le Dieu des ouvertures, comme il l'est ici pour Élie. Jésus l'a manifesté. Le signe de sa résurrection a été une pierre roulée, un tombeau qui n'enferme plus, un chemin de lumière au cœur des ténèbres. Le Seigneur a donc ici pour Élie une ouverture. Mais il a aussi un plan. Et il lui dit, « Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, car voici, j'ai ordonné là à une femme veuve de te nourrir. » Comme pour la première fois, lorsque Dieu l'envoie au torrent de Kérit, la parole est claire et complète. Dieu a préparé un lieu pour Élie. Il a pensé aussi à ses besoins. « J'ai ordonné, dit-il, que tes besoins soient pourvus. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Le Seigneur avait déjà, pareillement, ordonné au corbeau de nourrir Élie. Il envoie, mais il est au contrôle. Et Élie sait par expérience qu'il peut compter sur ce contrôle du Seigneur. On notera quand même que cette nouvelle destination n'est pas la plus confortable que l'on puisse imaginer. Sarepta, c'est dans le pays de Sidon, au nord du pays d'Israël. Sarepta est en territoire phénicien, territoire contrôlé par le beau-père d'Akab. Élie doit aller en plein territoire hostile. À Kérit, d'une certaine façon, il était chez lui, c'était sa région d'origine. Là-bas, à Sarepta, il sera un étranger. S'il se fait repérer, il est au cœur de la nasse. Il sera extradé sans plus de formalité, illico presto. Et Sidon, c'est le berceau du culte de Baal. Jézabel, la reine, a importé ses infamies en Israël depuis Sidon, sa région. Comment ce lieu peut-il servir de refuge pour Élie? Le Seigneur fait vraiment sortir Élie de sa zone de confort. Deux remarques ici. La première, c'est que nous avons à prendre acte que cette deuxième destination est plus exigeante que la première. C'est plus dur d'aller à Sarepta que d'aller se réfugier à l'abri près du torrent de Kérit en Galade. Mais cette deuxième destination s'appuie aussi sur la première. Élie a fait l'expérience très clairement que Dieu pourvoit, que Dieu protège, que Dieu est fidèle à sa parole. Et fort de cela, Élie doit pouvoir affronter une situation plus difficile. Fort de cela, il doit pouvoir accomplir une mission plus exigeante. Dieu, d'une certaine façon, s'attend à cela de la part d'Élie en fonction de ce qu'il a déjà vécu. Et cela nous rend attentifs à l'idée de progrès. L'idée de progrès. Nous ne sommes pas appelés à vivre une expérience de l'action de Dieu, puis une autre encore, en restant toujours pareil à nous-mêmes. Ces expériences que nous faisons doivent nous faire grandir, doivent nous fortifier, doivent nous rendre aptes à aller plus loin, à accepter de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités, si jamais Dieu nous les confie. Voyez ce qui se passe dans notre vie professionnelle, simplement. Il est normal qu'en fin de carrière, on soit capable d'assumer beaucoup plus qu'en début de carrière, quand on commence sa vie professionnelle. Et nous devrions avoir à cœur que Dieu puisse pareillement pour nous s'attendre à nous de mieux en mieux. Nous devrions avoir à cœur que Dieu puisse s'attendre à nous de mieux en mieux, puis qu'il puisse compter sur nous s'il a quelque chose à faire, s'il y a une attitude à prendre, s'il y a une mission à accomplir. L'apôtre Paul avait ce souci pour les chrétiens. Quand il écrit aux chrétiens de Thessalonique, il leur dit « Vous avez déjà appris comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Mais nous vous prions, nous vous en conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès, de progrès en progrès. » Ailleurs, il dit que votre amour augmente toujours plus. Avons-nous à cœur, dans notre marche avec Dieu, de faire des progrès? Prions-nous dans ce sens pour des progrès dans notre vie, pour des progrès dans la vie de nos frères, de nos sœurs, pour des progrès dans la vie de notre Église? Sommes-nous dans une perspective dynamique de pensée de notre vie avec Dieu? Lui demandons-nous, Seigneur, forme-moi, prépare-moi pour ce à quoi je pourrais être utile. Il me semble qu'il y a là de vraies perspectives à mettre au cœur de nos prières, en nous rappelant que progresser ne veut pas dire forcément en faire toujours plus, mais c'est aussi parfois en faire toujours mieux, et c'est être apte à autre chose que le Seigneur pourrait nous demander. Ayons ce souci du progrès, comme ici Élie peut être appelé à une autre mission après cette première expérience. Ma deuxième remarque concerne la raison de cette nouvelle destination. Quel est le but de cette nouvelle destination d'Élie à Sarepta? J'ai longtemps pensé que c'était la protection d'Élie. En quelque sorte, Dieu l'enverrait dans un endroit tellement improbable qu'on n'ira pas le chercher là-bas. Alors je pense que c'est vrai pour une part, mais qu'il y a aussi beaucoup plus que cela. Si Dieu envoie Élie là-bas à Sidon, c'est aussi parce qu'il a une mission, parce qu'il a un témoignage à rendre. Dieu veut faire la preuve qu'il a aussi le contrôle sur le territoire des Baals. Dieu veut montrer qu'il est capable d'agir là aussi, sur ce territoire qui est celui des Baals. Qu'il est capable de nourrir là, qu'il est capable de protéger là, et de protéger là même son serviteur qui s'oppose aux Baals. Il règne en Seigneur, là où Baal prétend exister en maître. Et Jézabel aussi, qui s'oppose de toute sa force au Seigneur, devra savoir un jour que c'est précisément chez elle que le Seigneur a été capable de protéger Élie. Cela fait penser à tous ces pays où subit la persécution des chrétiens. Nos frères et nos sœurs vivent des choses éprouvantes. Mais Dieu fait la preuve aussi dans ces situations-là qu'il garde son Église, y compris à ces endroits-là, que son Église subsiste, que son Église grandit malgré tout, qu'elle survit même à certains systèmes qui avaient voulu l'exterminer complètement. En ce qui nous concerne, ce que je retiens, c'est que dans la société sécularisée où nous vivons, où autour de nous la grande majorité des personnes vivent complètement sans référence à Dieu, nous avons nous aussi à viser plus que simplement vivre dans la paix, dans la tranquillité d'une situation calme. Car le Seigneur veut rendre témoignage de ce qu'il est chez nous aussi, tout comme il le voulait là-bas, à Sidon. Il veut montrer chez nous aussi qu'il est un Dieu vivant. Il veut montrer dans notre société aussi qu'il est un Dieu qui sauve, qu'il est un Dieu qui aime, qu'il est un Dieu d'espérance. Tout cela, il veut le montrer chez nous aussi, tout comme il voulait le montrer à Sidon. Cela mérite que nous nous considérions comme des envoyés, que nous nous considérions comme des témoins, ou pour prendre cette autre belle image, comme des ambassadeurs du Seigneur. Ambassadeurs du Seigneur, par nos paroles, par la vie que nous avons simplement au milieu de ce qui nous entoure, par la confiance que nous mettons en Dieu, par notre manière d'être, par nos gestes vers les autres. Demandons vraiment à Dieu qu'il ravive aussi en nous ce sens de manifester ce qu'il est en tout lieu, y compris chez nous même si ce cadre dans lequel nous vivons est un cadre où bien des gens vivent sans Dieu. Voilà donc Élie envoyé en terre étrangère. Le Seigneur lui garantit qu'il prendra soin de lui, mais le Seigneur fixe aussi les conditions de cette survie. La première chose qu'il lui dit, c'est « va, va là-bas, à Sarepta ». La première condition sera donc l'obéissance. « J'ai ordonné, dit ensuite le Seigneur, à une femme veuve de te nourrir. » Les veuves comptaient à cette époque comme les catégories sociales les plus vulnérables. Elles étaient à la merci des puissants. Elles étaient à la merci aussi des événements qui pouvaient survenir. C'est pourquoi elles devaient être protégées, défendues. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, de manière très particulière, se dit le défenseur de la veuve, des orphelins, parce que c'était des catégories socialement beaucoup plus vulnérables. Et voilà Élie envoyé pour sa survie chez une femme veuve. Il aurait été certainement plus confortable, plus sécurisant pour lui d'être envoyé chez un riche propriétaire agricole. Ça aurait été certainement beaucoup plus sécurisant. Mais il doit accepter les voies de Dieu, ces voies étranges qui lui donne comme secours dans la famine une personne particulièrement vulnérable à la famine. A-t-il pensé, en entendant le Seigneur lui parler d'une veuve, au torrent de Kérit, ce ruisseau qui s'était révélé lui aussi vulnérable à la sécheresse et qu'il avait un jour découvert sans eau? À nouveau, Dieu place son serviteur dans une situation de grande dépendance. Élie ne va pas maîtriser les choses. Il devra s'attendre au Seigneur, l'avoir lui pour secours, mettre en lui son espoir. Nous aimons avoir la maîtrise des choses. Nous aimons ce qui est bien sécurisé, ce qui est bien cadré. Nous sommes à l'aise quand nous avons quelques coussins de sécurité ou quelques parachutes dorés de sécurité. Et c'est une épreuve. Quand dans un domaine ou dans un autre, nos sécurités nous sont enlevées, quand nous ne maîtrisons plus les choses, c'est une épreuve, mais c'est aussi souvent un approfondissement. Car c'est alors qu'on doit chercher et que l'on cherche bien plus fort le secours du Seigneur. C'est là que l'on cherche bien plus fort ses ressources dans le Seigneur. On est obligé de s'attendre à lui en tout, pour tout, parce que l'on ne maîtrise plus les choses. On est obligé de faire confiance en sa maîtrise à lui, alors que nous ne maîtrisons plus rien. Et c'est ainsi que l'on se retrouve souvent bien plus proche de Dieu quand on est dans la dépendance. Et l'on expérimente aussi que, à sa façon à lui, le Seigneur est là, soutient, assure, ordonne les choses d'une façon qui n'appartient qu'à lui et nous conduit finalement. Acceptons d'être à cette école si le Seigneur nous le demande. Nous en serons non pas affaiblis, mais fortifiés, approfondis, enrichis. Heureux, nous dit le psaume 146 que nous avons lu tout à l'heure, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. C'est une promesse. Élie se met donc en route vers Sarepta, vers ce lieu où le Seigneur pourvoira. Il lui faut marcher 2-3 jours dans des zones quasi désertiques et il lui faut découvrir cette personne que le Seigneur a choisie pour le nourrir. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'adresse. Il ne peut pas non plus se dévoiler imprudemment, il est en terre hostile. Comment donc va se faire la rencontre ? Il arrive à l'entrée de la ville. Et très sobrement, mais avec une belle densité, le texte nous dit « Et voici là une femme veuve ramassant du bois. » Il arrive « Et voici là une femme veuve. » Comme par hasard. Le Seigneur guide les choses, nous le voyons ici. Et ce que l'on voit ici, c'est que quand le Seigneur veut guider les choses, il sait vraiment travailler aux deux bouts de la chaîne et rassembler ce qui doit être rassemblé. Et c'est assez remarquable que de voir à bien des reprises dans l'Écriture, on voit le Seigneur qui est capable, pour guider les choses, de justement rassembler les deux bouts de la chaîne. Quand Jacob envoie ses fils chercher du blé en Égypte, Joseph est en place pour les accueillir et subvenir à leurs besoins. Quand les espions entrent dans la ville de Jéricho, Rahab est là, prête en son cœur à les protéger. Un jour précis, alors que Mardoché, en exil, était en danger de mort à cause d'un plan d'un puissant amant, il se trouve que ce jour même, le roi Assuérus, plus puissant qu'avant, a une insomnie, se fait lire le récit des annales de son royaume et découvre des services rendus par Mardoché. Et le lien se fait. Lorsque l'eunuque éthiopien cherche à comprendre la parole de Dieu, voilà que Philippe est envoyé sur sa route pour la lui expliquer, lui faire découvrir Jésus. Le Seigneur a cette capacité à faire se joindre les deux bouts de la chaîne lorsqu'il veut accomplir ses plans. « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir, là, disait le Seigneur à Élie, et cette femme est là, au jour, à l'heure, au moment voulu. Et elle est là sans contrainte, elle est là à son initiative, elle est là à cause aussi de ses besoins. Elle a choisi d'être là, elle vient ramasser du bois. » Et nous avons ici un bel exemple de la magnifique maîtrise du Seigneur qui sait parfaitement intégrer nos choix et nos situations pour que s'accomplissent sans contrainte ses plans. « J'ai ordonné, dit-il, à une femme, mais cette femme n'a pas entendu un ordre du Seigneur. Elle a agi de son initiative et les choses se rejoignent. » Le Seigneur a cette capacité à accomplir ses plans en se servant de ce que nous sommes, de nos initiatives. Ayons donc confiance. Si Dieu doit réaliser quelque chose qui concerne sa volonté pour nous, il saura faire les jonctions nécessaires et utiliser toutes sortes d'initiatives vers ce but. Nous pouvons avoir cette confiance. Voilà donc Élie qui, à peine arrivé à Sarepta, rencontre tout de suite une femme veuve à la porte de la ville. Peut-être apprend-il assez vite qu'elle est veuve s'il parle un peu avec elle. La convergence est trop belle. Et on pourrait imaginer le prophète tout emballé, remerciant déjà le Seigneur pour cette magnifique rencontre. « Seigneur, merci, du premier coup, tu m'as donné la bonne personne. Merci Seigneur, tu exauces mes attentes. » Le prophète semble ici avoir un peu plus de prudence et de sagesse. Il ne tire pas tout de suite de conclusion à partir de la simple convergence des situations. Ce n'est pas seulement parce qu'une femme est arrivée juste là, au moment où il arrive dans la ville et que Dieu lui a dit qu'une femme veuve allait le nourrir, qu'il est sûr que c'est véritablement le Seigneur qui fait tout. Et nous voyons ici Élie qui teste les choses un peu plus en profondeur. « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir », avait dit le Seigneur. Ce qui veut dire que si cette femme est vraiment celle que Dieu a choisie, elle aura aussi les dispositions intérieures qui correspondent à la parole que le Seigneur a dite. Si elle doit le nourrir, elle aura les dispositions pour cela. Et voilà donc Élie qui va un peu plus loin que de simplement s'arrêter à la convergence des situations et qu'il teste les dispositions de cette femme. Et c'est pourquoi il lui demande poliment d'ailleurs, avec beaucoup de respect, si elle peut lui chercher un peu d'eau dans une cruche. Une demande naturelle de la part de quelqu'un qui visiblement a fait un long voyage, mais une demande exigeante. L'eau était rare, c'était la sécheresse. Et avec une étonnante générosité, cette femme répond à la demande d'Élie. Élie ne sait pas au moment où il lui demande cela qu'elle est à sa toute dernière extrémité. Élie ne sait pas qu'au moment où il lui demande ce verre d'eau, elle tourne dans sa tête des pensées insupportables puisqu'elle est à bout de ressources pour nourrir son enfant. Elle accepte pourtant, malgré cette perspective horrible qui est devant elle d'avoir juste un dernier repas à offrir à son enfant, elle accepte pourtant malgré cela de s'ouvrir aux besoins de cet étranger qui passe sur sa route et qui a besoin d'aide, lui aussi. C'est admirable. Quelle beauté de cœur. Lorsque la femme revient vers lui, Élie sait qu'il peut aller un peu plus loin et lui demander un peu de pain. Élie reste dans la ligne de ce que le Seigneur lui a dit, « Elle te nourrira. Si donc elle doit me nourrir, je peux lui demander du pain. » Et c'est en faisant ce deuxième test, en demandant à cette femme qui lui amène de l'eau, de lui dire « N'aurais-tu pas un peu de pain ?» C'est ce qu'il dit, « Un peu de pain. » Il va découvrir toutes les profondeurs de cette personne. Il découvre d'abord sa générosité parce qu'elle lui expose sa situation. Et il découvre vraiment que l'attention qu'elle lui a accordée est quelque chose d'extraordinaire puisqu'elle a accepté de lui donner à boire et de s'oublier elle-même alors qu'elle avait des soucis tellement immenses. Il découvre aussi son dénuement extrême et sa bonté au cœur même de ce dénuement. Cette femme a même un mot sur l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle lui dit, lorsqu'il fait sa demande, elle dit « L'Éternel est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai presque plus rien. L'Éternel est vivant, dit-elle. » On ne sait pas ce qui l'amène à parler du Seigneur à ce moment-là, du Dieu d'Israël. Elle a certainement reconnu en Élie un Israélite. Est-ce que Élie lui a parlé du Seigneur dans l'échange qu'ils ont eu pour qu'elle reprenne « L'Éternel, ton Dieu, est vivant » Est-ce que son propre cœur, d'une certaine façon, pour une raison ou une autre, dans le Dieu d'Israël, le Seigneur, nous ne le savons pas. Mais ce qui est certain en tout cas, et Élie le découvre ici, c'est qu'il est en face d'une personne qui n'a plus recours au Baal. Alors ça c'est certain, elle est dans le pays, le territoire des Baals à Sidon, et elle ne dit pas « Les Baals sont vivants », non, son recours... C'est le Seigneur, l'Éternel. Elle est au moins dans l'ouverture au Seigneur si elle n'est pas déjà dans la foi. Élie a maintenant assez d'éléments entre les mains. Il sait que c'est elle que le Seigneur a choisie. Non seulement il y a eu la rencontre providentielle, mais il y a aussi en profondeur les dispositions de cœur que manifeste cette personne. Dispositions de cœur qui correspondent vraiment à la parole que le Seigneur lui a dite. J'aimerais ici nous inviter à avoir la même profondeur de jugement que celle qu'Élie exerce ici, lorsque nous voulons savoir si Dieu nous dirige. Il nous arrive facilement, reconnaissons-le, de rester à la surface des choses et de nous dire simplement, oui, s'il y a une convergence d'événements, c'est bien, c'est le Seigneur. Hein? Ai-je fait une rencontre? J'ai prié, j'ai rencontré, c'est la volonté de Dieu, j'en suis sûr. Et il arrive parfois qu'on ait tellement besoin d'une réponse que ce qui se présente sera la réponse. Et on prend cela simplement à cause de la convergence des situations. Il faut dire que parfois, on n'a pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin que cette convergence des situations. Si par exemple la rencontre que nous faisons est un beau jeune homme qui nous fait complètement craquer, ou une charmante jeune fille qui nous met en émoi, on préfère rester à la surface et de se dire on s'est rencontré, ça s'est donné, c'est sûr, c'est le Seigneur. Oui, mais qu'en est-il du reste? Qu'en est-il du reste? Qu'en est-il des dispositions profondes que manifeste cette personne? Qu'en est-il de ces dispositions réelles par rapport à Dieu? Qu'en est-il de notre harmonie en profondeur sur les valeurs, sur les objectifs, sur nos caractères, sur les projets de vie? Élie nous invite à ne pas en rester à la surface des choses, à ne pas dire simplement « ça s'est donné, c'est le Seigneur ». Mais il nous invite à prendre d'autres critères pour évaluer ce qui est en cause. Il nous faut aller plus loin que la simple convergence des événements. Il nous faut aussi tester les choses en profondeur, vérifier en profondeur si on est ou si on n'est pas dans la ligne de la parole de Dieu, si on est ou si on n'est pas dans la ligne de la pensée de Dieu. Et je crois que nous éviterions parfois bien des faux pas, bien des bêtises, si nous nous appliquions vraiment cette prudence. Que votre amour pour Dieu augmente, nous dit l'apôtre Paul, de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Vous voyez que là, le regard va en profondeur. n'est pas juste dire les choses se sont données comme ça, c'est le Seigneur. Mais c'est de dire sur cette base-là, qu'est-ce qui se passe vraiment? Que votre amour augmente en connaissance, en pleine intelligence pour le discernement de ce qui est essentiel. Demandons au Seigneur cette même sagesse dans nos différentes situations. Je reviens à Élie. Élie découvre maintenant la situation réelle, les dispositions profondes de cette femme. Et lorsqu'il découvre cela, il comprend maintenant. Il comprend que le Seigneur a choisi cette personne admirable dans son dénuement pour la sauver, elle et son fils, en même temps qu'elle le sauverait lui, Élie. La clé de l'action future de Dieu lui est donnée. Sa femme n'a presque plus rien. C'est ce presque plus rien que le Seigneur va renouveler, et renouveler encore, et encore, et encore. Et c'est avec ce presque plus rien qui dure et qui est renouvelé qu'il sera possible de traverser la sécheresse. Et c'est ainsi que la promesse s'impose à lui clairement. Le Seigneur la lui donne. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur le pays. Voilà la promesse. Élie le comprend. Mais pour que cette promesse se réalise et qu'elle prenne tout son sens, il faudra que cette femme entre elle-même résolument et personnellement dans une démarche de confiance en Dieu. Et c'est pourquoi Élie lui fait une demande qui mêle une exigence terrible et une promesse extraordinaire. L'exigence, c'est de lui dire, écoute, risque tes dernières ressources. Il te reste qu'un peu de farine et d'eau et d'huile pour faire du pain. Je te demande d'en faire et de me l'apporter. Ça, c'est vraiment risqué, c'est vraiment l'exigence. La ressource, c'est de dire, si tu fais cela, si tu entres dans cette démarche de confiance, le Seigneur te promet que tu auras toujours du nécessaire et jusqu'au bout de cette famine, alors que tu pensais que c'était la fin juste aujourd'hui. Si cette femme entre dans cette démarche, elle devient partenaire, partenaire de foi, partenaire de l'attente de Dieu, partenaire aussi de la réponse quotidienne du Seigneur, partenaire de reconnaissance envers le Seigneur, l'unique qui pourvoit, partenaire d'action de grâce devant le miracle de chaque jour où les ressources sont données, renouvelées. Et nous voyons ici la femme qui entre dans ce qu'Élie lui propose. Elle prend le risque de donner tout ce qu'elle a, tout ce qu'il lui reste. Elle prend le risque de faire confiance à la promesse qui lui est donnée, d'obéir avant toute autre considération. Et elle découvre, en retour, la richesse des générosités et du soutien de Dieu pour elle, pour son fils, pour Élie, et ceci au-delà de toute mesure. Que tirer de tout cela? Ce que je tire d'abord, c'est que Dieu aime donner là où il y a un engagement partagé. Dieu aime donner là où il y a un engagement partagé. Dieu s'est donné unilatéralement, simplement par générosité, par son action à lui, par son souci de nous, par son amour pour nous. Et cela, il l'a montré parfaitement en Jésus-Christ, en venant vers nous, en réalisant tout lui-même. C'est là, pour le salut, il a pris toutes les initiatives lui-même. Mais Dieu aime aussi nous donner sa grâce et ses bienfaits en retour de notre engagement à nous. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il se crée une relation. Il se crée une relation, un lien très fort. Je m'engage dans la foi envers le Seigneur et le Seigneur répond à mon engagement. Il y a là vraiment un lien, un amour, une loyauté qui se construisent et qui s'expriment dans les deux sens. Et Dieu a vraiment à cœur de pouvoir faire cela avec nous. Dieu a voulu vraiment cette femme. Il a voulu Élie partenaire avec lui, partenaire de confiance, partenaire d'obéissance, pour devenir bénéficiaire de sa bonté d'une manière encore plus riche. Ayons-nous aussi ce même désir d'entrer dans un vrai partenariat avec le Seigneur. Nous ne sommes pas simplement en attente de ce que Dieu donne, mais nous savons aussi lui donner priorité à lui, lui témoigner un amour qui s'engage envers lui, tout comme lui s'est engagé envers nous. Dieu aime donner là où il y a engagement partagé. Une deuxième observation me vient de la comparaison entre les deux canaux de la bénédiction de Dieu pour Élie. Au torrent de Kérit, Dieu avait dit « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir ». Et nous avions souligné que cela représente des ressources immenses du Seigneur de sa création. Il peut utiliser toutes les ressources de sa création pour le bien de ses enfants. Ici, c'est « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Cette fois-ci, c'est par l'engagement de cette veuve, par la confiance de cette veuve, par le don d'elle-même, que cette femme sera le canal de Dieu pour Élie. Je m'applique ça à moi-même et je me dis, c'est bien d'attendre du Seigneur qu'il utilise toutes sortes de moyens qu'il tire de ses ressources infinies, comme il l'a fait avec les corbeaux. Et si parfois, la main du Seigneur pour mon prochain passait d'abord par ma main à moi, par ma main tendue en faveur de ce prochain. Et si plutôt que toutes sortes de moyens hors du commun, le Seigneur avait choisi plutôt ma disponibilité, mon oreille, mon soutien, mon action. Je demande à Dieu la grâce d'être prêt, d'être ouvert, si c'est là ce qu'il a choisi, comme il l'a fait avec cette veuve. Pensons vraiment à ces moyens que Dieu emploie et à nous dire, oui, et si c'était moi qui étais la main du Seigneur, le canal du Seigneur. Dernière image, c'est celle d'Élie, de cette femme et de son fils. Ils sont là en terre étrangère, mais ils sont là ensemble, un petit peu comme l'Église de Dieu en terre étrangère. Et même Jésus soulignera qu'ils sont l'Église internationale de Dieu en terre étrangère. Il soulignera qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël et pourtant que le Seigneur est allé a envoyé Élie vers une veuve en pays étranger. Dieu a donné à Élie, à Sidon, plus que la nourriture pour survivre dans la disette. Mais il lui a donné aussi une famille physique, une famille spirituelle. Ils ont été là, au pays de Baal, ces deux ou trois rassemblés au nom du Seigneur. Ensemble, ils ont pu rester verdoyants malgré la sécheresse. Cela nous rappelle aussi combien nous avons besoin les uns des autres. Découvrons aussi, ensemble, dans une foi pleinement partagée et dans un engagement fidèle, les ressources du Seigneur en toutes circonstances. Et soyons ce peuple qui manifeste sa présence et ses ressources. Et voici, nous dit le Seigneur Jésus, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen.